Je veux bien démarrer, Gérard Hugoni. Donc, à propos de votre exposé, Monsieur Thébault, d'abord, un vœu qui va être exaucé, d'après ce que je sais des futurs programmes de collège, en troisième, on traitera ensemble la France et l'Europe. Et les États-Unis et le Japon passeraient en quatrième, si j'ai bien compris. Mais alors, sinon, en élargissant un peu votre propos, on ne pourrait étudier un État, un territoire, que quand on connaît son histoire. Et comment il s'est construit, etc. Ce qui fait que chaque année, en cinquième, par exemple, ou en quatrième, où on étudie d'autres territoires, bien évidemment, on n'a pas étudié l'histoire jusqu'à cette époque-là. Et on tomberait peut-être, et je vais lier, et ça sera la fin de ma question, avec l'exposé de François Audigier, j'avais une question qui semble en contradiction avec ça. Hein, on ne pourrait étudier un territoire que quand on connaît sa construction historique et quand on sait comment il s'est placé dans telle dynamique, etc. Tout à l'heure, François Audigier disait il faut inverser, hein, si j'ai bien compris, il faut renverser les perspectives, partir de compétences qui ne sont pas disciplinaires et, à propos d'une situation devant laquelle on pose l'élève, aller chercher des connaissances apportées par différents champs qui peuvent être scolaire ou pas, mais dont des disciplines scolaires. Mais alors, ma question est, dans ce cas-là, pour François Audigier, on va aller chercher des connaissances en partie dans le champ historique scolaire ou dans le champ géographique. Mais où et comment se construiraient ces connaissances et ces champs scolaires, historiques et géographiques pour pouvoir aller chercher des connaissances mobilisables? Je vous signale que c'est la même question qui est posée à propos des études de cas en seconde, première, et elles vont être multipliées dans les nouveaux programmes de collège et peut-être à l'école élémentaire. Dans le programme 2007 bis, 2008 maintenant. C'est-à-dire, on dit étude de cas, on peut prendre un territoire et puis on ira chercher en tant que de besoin des éléments de connaissance en géographie physique s'il y a une contrainte naturelle, en économie s'il y a un problème économique, etc. etc. C'est bien, mais où construit-on un savoir cohérent sur les faits naturels en géographie, sur l'économie en géographie, etc. Hein, si on ne fait que rechercher des éléments mobilisables à propos d'une situation précise, dans un cas donné. Hein, donc, deux remarques différentes, mais qui sont liées, parce que ça semblait un peu en contradiction. On ne pourrait étudier un territoire que si on connaît son histoire, d'une part, et comment construit-on ce savoir historique si on va simplement chercher des éléments, où le construit-on si on part de situations précises?
Je réponds donc à la première partie de la question, évidemment. Il me semble qu'il y a une différence fondamentale entre effectivement l'enseignement de l'européisme et de l'européanité. En ce qui concerne l'européisme, je vois mal comment on peut effectivement enseigner une production d'un territoire, la production du territoire européen à travers les politiques régionales européennes, si effectivement elles ne sont pas directement liées à ce qu'a été la situation historique, la représentation historique, effectivement, de cette césure dans les représentations géographiques donc de l'Europe, très forte au début des années 70, et je ne vois pas, effectivement, comment on peut, effectivement, enseigner cette politique de production de territoire européen si elle n'est pas resituée dans ce qu'a été l'évolution de la pensée de l'espace européen par la décision politique européenne.
Hein, je reprends la parole pour dire, mais à ce moment-là, je ne peux pas étudier le Maghreb ou je ne peux pas étudier la Côte d'Ivoire avant d'avoir étudié la colonisation et la décolonisation.
Sauf que la différence, c'est que l'objet qui est celui de la volonté de la construction politique, c'est la construction politique qui a créé l'objet. Dans ce cas présent. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, d'un territoire européen existant par lui-même sans la construction historique me semble très, très surprenant, très curieux. En revanche, vous avez tout à fait raison, je veux dire qu'effectivement, sur l'aspect de l'européanité, il ne me semble pas nécessaire, effectivement, qu'il y ait forcément une étude historique préalable. On peut, bien sûr, étudier donc d'abord l'objet, ensuite voir, effectivement, les strates historiques qui l'ont créé. Simplement, quand elle est découpée sur plusieurs années, je ne sais pas, effectivement, ce qui peut en rester dans l'esprit de l'élève.
Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Simplement, je voulais pointer ce qui me semble, alors, à partir d'autres analyses, des évolutions très de fond depuis 10-15 ans dans les pays de l'OCDE et les pays de l'Union européenne. Je renverrai aux compétences de... Alors, comment ça s'appelle, mais sur les compétences de formation tout au long de la vie de l'Union européenne. Je renverrai aux évaluations PISA, TIMSS, IEA. En Suisse, c'est pareil. Il y a 26 cantons, il y a 26 systèmes éducatifs différents. Et la convergence, elle va se faire par des balises qu'on appelle HARMOS, qui sont des harmonisations à la sortie. Hein, et ça concerne quoi? Ça concerne les langues, ça concerne les mathématiques et ça concerne les sciences de la nature. Et tout ce qui concerne les visions du monde, les compréhensions du monde social, ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, hein, tout ce qui concerne d'une certaine manière la culture, j'allais dire, est marginalisé, hein, a de moins en moins d'importance, même si on rappelle. Mais comme si c'était quelque chose qui était sous-traité aux communautés politiques, aux communautés locales, aux autonomies, etc. Donc, c'est tout ce que je veux dire par là. Hein. Simplement, il y a ce mouvement d'avoir dans les disciplines que j'évoquais tout à l'heure, ou les champs de préoccupation, ou les pratiques sociales que j'évoquais tout à l'heure, cette idée d'une mise en avant de compétences en situation. Je pense que les collègues qui travaillent sur les langues auraient des choses beaucoup plus pertinentes que moi à dire. Hein. On apprend une langue en situation, par son usage, hein, pour être extrêmement trivial. Alors après ça, je pense qu'il y a un débat et un travail à faire sur ce rapport avec nos disciplines. Alors, quand tu parles de cohérence disciplinaire, je suis à la fois... J'aimerais qu'il en soit ainsi. Hein. Je crois que la démonstration qui vient d'être faite à travers les programmes montre que la cohérence disciplinaire, elle n'est pas si grande que ça. Par ailleurs, dans les champs scientifiques, il y a un éclatement des spécialités. Hein. C'est-à-dire qu'on réclame à l'enseignement secondaire et primaire, et on réclame à nos disciplines la transmission, la construction d'une vision relativement cohérente, etc., à partir de savoirs scientifiques ou de savoirs de référence qui sont totalement éclatés, diversifiés, où chacun va construire son propre système, sa propre manière de penser, et ce qui rend quand même assez difficile, pour pas dire la transposition, hein, mais la manière dont on peut faire référence, enfin, l'usage de ces savoirs de référence. Alors moi, j'ai pas de réponse. Hein. Simplement, il me semble que le problème, il faut qu'on l'affronte. Voilà. Je m'interroge et je dirais que c'est notre travail à tous d'essayer de le poser à la fois dans sa complexité. J'ai parlé tout à l'heure, je crois, de la problématique du détour et du retour. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des questions sociales, nos questions contemporaines, des questions citoyennes. Ces questions citoyennes, elles ne sont pas disciplinaires. Qu'est-ce que nous apporte le fait de faire un détour par des savoirs disciplinaires? Et puis lesquels? Encore une fois, hein, j'ai parlé très rapidement de la forme scolaire. Comme je dis toujours, hein, dans les classes, et je crois l'avoir dit en commençant, dans les classes, dans nos situations de formation, on étudie trois petits bouts de texte. On n'étudie pas la construction européenne, c'est pas vrai. Hein. On étudie trois petits bouts de texte, deux images, une carte, on en fait un schéma. C'est extrêmement limité ce qu'on fait. On va construire, si je reprends l'expression d'un Gérard Fourez, un épistémologue belge, on va construire des petits îlots de rationalité dans un océan, hein, c'est l'archipel, dans un océan d'approximation et d'ignorance. Je crois que là-dessus, il faut être très modeste. Et encore une fois, la cohérence, moi j'ai le sentiment que nos disciplines, à travers notamment la forme scolaire, mais bien d'autres choses, c'est un terrible puzzle dans lequel il y a plein de trous. Hein. Alors en histoire, on est très content de la continuité chronologique, puis quand on analyse un peu les manuels ou autres, on est dans une discontinuité constante, hein, parce qu'on ne peut pas tout traiter, voilà.
Oui, moi je crois qu'effectivement c'est essentiel, en tout cas dans un enseignement de l'Europe, de faire une clarification sémantique, notamment sur européanité, européisme. Alors en même temps, il me semble que dans ces questions de l'identité, c'est apparu dans les deux communications, on reste sur ce vieux modèle finalement de Renan qui définit la nation, avoir un passé commun, avoir un certain nombre de valeurs auxquelles on adhère dans un présent et avoir un projet. Et le problème finalement que l'on a, c'est que cette histoire, elle a été souvent conflictuelle. Le présent est compliqué, les valeurs communes ne sont pas complètement évidentes, sauf finalement à passer à des valeurs qui sont devenues tellement universelles qu'elles ne caractérisent pas particulièrement l'échelon européen. Et dans un certain nombre de sondages, quand on demande aux gens « Vous sentez-vous citoyen d'abord de votre pays européen ?» Bon, combien répondent « citoyens du monde » en adhérant à des valeurs extrêmement larges. Une sorte de succès. Delumeau disait toujours que le christianisme avait péri à partir du moment où ses valeurs étaient devenues à peu près universelles. Qu'est-ce que adhérer à des valeurs en identité? L'identité, je repense aux Grecs, les barbares, c'était nous contre eux. Et penser l'Europe, à un moment donné, c'est penser des Européens par rapport à des gens qui ne seraient pas Européens. Et ce qui me frappe, là je lisais dernièrement Georges Steiner, une certaine idée de l'Europe, c'est qu'au moment où il veut distinguer les Européens, ils veulent les distinguer, par exemple, des Américains, des États-Unis, qui en réalité sont plutôt proches. C'est rare qu'on ait la démarche de dire « nous sommes des Européens, en tant qu'Européens, nous serions différents, alors de quoi ?» Et comment qualifierions-nous les autres d'orientaux, d'asiatiques? Quel sens ça a? Donc je crois que dans ce vieux schéma, je me définis en m'opposant, en me distinguant. C'est devenu extrêmement difficile de faire cela.
Je voulais juste répondre, vous faites effectivement référence à Georges Steiner. Cette question effectivement de la dimension universelle de valeur, en lisant effectivement des gens comme Steiner, comme Sisek, etc., ou Todorov, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui est plus revendiqué aujourd'hui dans des territoires dans des espaces qui pourraient être ou qui sont effectivement montrés par certains comme étant des marges de l'européanité pour revendiquer au nom de ces valeurs une continuité spatiale. Et lorsqu'effectivement Steiner dit, j'ai plus la formulation exacte, que l'Europe c'est d'abord l'Europe des cafés, l'Europe des espaces que l'on peut parcourir à pied, l'Europe des plaques commémoratives, des noms de savants, etc., les noms de rues, et puis que c'est aussi bien sûr donc d'autres héritages, il est dans une revendication au fond d'une continuité au fond européenne par rapport, effectivement, à une identité occidentale différente qui est celle, effectivement, des États-Unis, nord-américaine. Et au fond, la discussion sur l'européanité, elle est aujourd'hui plus portée quand on, effectivement, part, effectivement, ces penseurs qui revendiquent cet élément parce qu'ils ont eu un sentiment d'exclusion à un moment donné de cette européanité, et d'être au fond un gradient assez faible d'européanité, beaucoup plus que dans ce qui est le noyau historique de ces valeurs occidentales.
Et alors, il y a une autre difficulté, puisqu'on est sur Georges Steiner, je trouve qu'y compris dans les questions de l'enseignement de l'Europe, c'est un point qui nous intéresse et qui fait problème. Pour lui, une des singularités, s'il faut essayer de distinguer de l'Europe, ce serait d'être sur un espace restreint, une mosaïque culturelle extrêmement, vraiment diversifiée. Pour lui, nulle part, alors je ne sais pas, c'est peut-être discuter, nulle part dans le monde, on ne trouverait sur un espace aussi restreint une telle quantité de langues, de cultures, de productions différentes. Donc pour lui, finalement, un enseignement de l'Europe, c'est essentiellement un enseignement de la diversité. Or, il dit, l'Europe se construit forcément sur l'uniformisation de normes et de critères. Donc et souvent, finalement, quand on lit « Qu'est-ce que l'Europe ?» sous la plume des intellectuels, on a une vision d'une européanité, pour le coup, mais qui ressemble plus, moi, je dirais, à un cosmopolitisme. C'est parler 5-6 langues. C'est se trouver aussi bien à Vienne, à Londres, etc., comme on peut le trouver sous la plume de gens avant 1914. Mais c'est très loin du vécu des citoyens européens.
C'est aussi le projet que défend Ulrich Beck, hein, pour un empire européen, d'un cosmopolitisme comme base du projet européen et effectivement d'une identité européenne qui repose sur ce que Beck appelle l'altérité, hein, comme élément de l'identité européenne, ou définissant cette identité européenne.
Puis-je dire une chose? L'Infogéo va sortir un texte sur l'indianité de l'Inde qui dit exactement la même chose. C'est-à-dire ce qui ferait l'Inde, d'après l'auteur, c'est le rassemblement dans un territoire d'un cosmopolitisme de langue, de peuple, etc. Et on voit bien que là, ça se discute. Hein.
Juste sur la question de l'altérité, pour poursuivre ce que disait Corinne, un simple témoignage. Quand j'enseignais à Budapest, j'avais des élèves français, majoritairement, et hongrois, et d'autres nationalités européennes. Et un jour, en première, je leur ai posé la question sur justement qui était en quelque sorte, non pas l'ennemi, mais enfin l'autre vis-à-vis de l'Europe. Et ce qui m'a surprise, c'est que la majorité des élèves français m'ont dit, donc des élèves de première, l'autre, celui qui n'est pas européen, c'est soit le musulman, soit l'américain. Alors que mes élèves hongrois ont tous dit, mais madame, c'est le russe.
Elles sont discrètes, personne n'a compris.